7h29 minutes, ce que l'on attendait depuis déjà un certain temps, ce qui était dans l'air, c'est confirmé. Éric Salvaille qui a été donc formellement arrêté, accusé. 3 chefs d'accusation, 1 victime présumée. Des événements qui remontent à il y a 25 ans. Donc, agression sexuelle, séquestration et harcèlement criminel. Quelles sont les prochaines étapes? Que veulent dire les accusations? J'en parle avec Maître Déborah de Tomassis, qui est avocate en droit criminel. Maître de Tomassis, bonjour.
Bonjour.
On va commencer par les chefs d'accusation et le fait que ça remonte à il y a 25 ans. Donc, c'est la loi de l'époque là, qui doit s'appliquer, j'imagine.
Oui, en 1993, donc c'est les articles du code de 1993 qui vont s'appliquer. Donc autant au niveau d'une peine potentielle que l'intention requise à l'époque.
OK. Quand on parle de harcèlement criminel, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la différence entre du harcèlement tout court puis du harcèlement criminel?
Ben, l'harcèlement criminel, c'est que c'est écrit dans l'article, c'est ça, le comportement de l'accusé fait en sorte que la victime vient à craindre pour sa sécurité, pour la sienne ou pour celle de ses proches. Alors, l'harcèlement ici peut être, c'est pas nécessairement des actes répétés, mais c'est un comportement de l'accusé qui fait en sorte que le ou la plaignante va craindre pour sa sécurité, va avoir peur, va constater que les actions font en sorte qu'elle ne se sent plus en sécurité et c'est très difficile à expliquer, mais des fois, on pense que c'est toujours des actes répétés, mais c'est pas nécessairement ça. C'est un comportement général.
OK, ça peut être des gestes, ça peut être des paroles.
Des gestes, des paroles, des écrits, la façon d'être autour de la plaignante, le plaignant, de vouloir lui faire craindre de par sa façon d'agir, de par son attitude, de par son comportement.
Parce que là, la façon dont vous décrivez ça, ça donne l'image de cas de gens, par exemple, sur Twitter qui vont envoyer des messages, comme on dit, de harcèlement haineux à l'endroit de certaines personnes. Ça peut être ce genre de type-là.
Oui, sauf que je pense qu'à 93,
non, ça, c'est sûr.
Ça débutait.
Non,
on avait encore des 486 ou des choses comme ça.
OK.
On n'avait pas Internet.
Non, ouais. Ça, c'est clair. Agression sexuelle, ben là, c'est large quand même.
Agression sexuelle, c'est large, effectivement. Ça peut aller de toucher les parties génitales, de prendre la main de quelqu'un d'autre, de les mettre sur les siennes. Ça peut être flatter les fesses, comme ça peut aller à l'autre extrême, qui est d'une relation sexuelle non consensuelle.
OK. Séquestration, ben c'est empêcher quelqu'un de sortir d'un endroit ou de le confiner à un endroit.
C'est ça. Souvent, les gens vont penser à séquestration, à de l'emprisonnement dans un sous-sol, là, mais c'est pas nécessairement ça. Ça peut être, à titre d'exemple, que la personne est passager dans un véhicule, on barre les portes et on l'empêche de sortir. Ça peut être une séquestration. Ça peut être également de l'inviter dans une pièce et de s'assurer qu'elle ne puisse pas en sortir, de barrer la porte. De physiquement se mettre devant la porte ou d'une sortie pour empêcher la personne de quitter. Donc, dans une séquestration comme dans l'agression sexuelle, il y a différents degrés, mais il y a différentes façons de séquestrer une personne ou de l'empêcher de quitter.
OK. J'allais vous dire, parce que certains témoins dans les articles de la presse qui ont révélé l'histoire d'Éric Salvaille racontaient qu'il avait tendance à exhiber ses parties génitales dans des lieux publics. Est-ce que ça représente une infraction?
Bien, de ce que je me souviens d'avoir lu, c'est qu'il s'était également accompagné de paroles genre « Est-ce que tu veux la toucher? » ou je ne dis pas que c'est ça qu'il a dit, là, mais « Est-ce que... » Je vais te la mettre sur toi, etc. Ça peut, oui, ça, c'est ça peut ressembler à une agression sexuelle, effectivement. Mais j'ai pas tout le contexte là, qui va avec le geste. Mais c'est minimalement de l'exhibitionnisme, qui est encore une infraction.
OK. 93, donc il y a 25 ans, qu'est-ce que la loi prévoit si la personne est reconnue coupable face à 1, 2 ou 3 chefs d'accusation?
Bon, j'ai pas le temps de retrouver un code de 93, mais je sais que la peine maximale n'était pas la même qu'aujourd'hui, qui fait en sorte que, de mémoire, et celui que j'ai vérifié, c'est au niveau de l'agression sexuelle, c'est une peine maximale de 10 ans, qui fait en sorte que la gravité objective n'était pas considérée la même au niveau sentenciel, c'est-à-dire qu'il y a des options de sentence qui s'ouvrent à M. Salvaille qui ne s'ouvriraient pas aujourd'hui.
Comme quoi?
À titre d'exemple, parce que je sais qu'on monsieur a des propriétés à l'extérieur, dont les États-Unis. Et donc, quelqu'un qui était visé par une peine maximum de 10 ans à l'époque a le droit de demander au tribunal, s'il est reconnu coupable, l'imposition d'une sentence telle qu'une absolution soit conditionnelle ou inconditionnelle. Il ne pourrait pas faire aujourd'hui.
OK, aujourd'hui, il pourrait faire ça, mais compte tenu que ça fait 25 ans, il pourrait le faire.
Oui, parce qu'à l'époque, c'était maximum 10 ans.
OK, pour que ça soit...
La peine maximale.
OK, pour que ça soit encore bien plus clair là, pour nos auditeurs et nos auditrices, là, M. Salvay, là, on lit ce matin dans le Journal de Montréal qu'il veut vendre ses propriétés en Floride. Mais mettons qu'il est reconnu coupable d'agression sexuelle en fonction de la loi de l'époque, est-ce qu'il va pouvoir retourner en Floride, par exemple?
Non. Même si l'infraction est de 93, la peine peut être d'une absolution qui lui permettrait d'aller aux États-Unis. Mais s'il n'obtient pas l'absolution, il ne pourra pas aller aux États-Unis. Il faut comprendre que la frontière américaine, elle est dirigée par les Américains, évidemment, et c'est les douaniers qui déterminent, selon leurs critères, si la personne peut entrer sur leur territoire. Donc, tout ce qui touche les mœurs fait en sorte qu'un douanier va empêcher une personne de rentrer dans le territoire.
OK. Autrement
dit... Donc, agression sexuelle, la personne ne pourra pas rentrer sur le territoire.
OK. Le douanier qui va pitonner, mettons, Éric Salvay après une condamnation, puis qui voit agression sexuelle, il ne laisse pas rentrer.
Absolument, il ne laissera pas rentrer.
OK.
À moins qu'il obtienne une autre procédure qui s'appelle un waiver, dans le langage américain, c'est-à-dire d'obtenir un laissez-passer, si l'on veut, pour une période déterminée, pour se rendre aux États-Unis s'il remplit les critères là, de la loi américaine.
OK. Il peut être acquitté, il peut décider de plaider coupable, de négocier un plaidoyer, d'être reconnu coupable. Une absolution conditionnelle, inconditionnelle, faites-moi la différence entre les deux, puis de quelle façon ça s'applique, puis comment ça joue, ça.
OK. Bon, je commencerai par la conditionnelle, parce que ça va expliquer l'inconditionnelle. Ouais. Alors, la conditionnelle fait en sorte que, même si la personne enregistre un plaidoyer de culpabilité, reconnaît les faits, le tribunal vient à la conclusion qu'il est dans son intérêt qu'il n'obtienne pas de casier judiciaire, alors il doit en faire la preuve, et que ça ne va pas à l'encontre de l'intérêt public qu'il obtienne une absolution. Donc, une fois que ces deux critères-là sont passés, à ce moment-là, le juge, lui, malgré qu'il le reconnaît coupable, il ne lui donne pas de casier judiciaire, à la condition que pendant une période précise, qui peut aller jusqu'à 3 ans, il se soumette à des conditions spécifiques, c'est-à-dire les régulières qui sont de garder la paix, avoir une bonne conduite, aviser le tribunal de changement de nom, adresse, profession, et également donc des plus précises qui peuvent être ne pas communiquer avec les victimes au dossier, des témoins, respecter un rayon quelconque, faire des heures de bénévolat, des travaux communautaires, etc. Alors, ça se cadre dans ce qu'on appelle une probation. Et si la personne réussit cette probation-là dans la période à laquelle il est soumis, à ce moment-là, le casier n'existe pas.
Ça, je comprends très bien. Mais expliquez-moi, parce que là, les auditeurs vont se poser la question. Quelqu'un qui est reconnu coupable, mettons, quels sont les cas où il y aura un intérêt à ce que cette personne-là n'ait pas de casier judiciaire?
Bon, il n'y a pas seulement le fait de rentrer aux États-Unis. C'est une de ceux qui est le plus connu et de connaissances judiciaires qu'avec un casier, on n'entre pas aux États-Unis. Mais également le fait qu'une personne par exemple, est membre d'un ordre professionnel qui lui empêche d'avoir un casier judiciaire. Il y a le fait, à titre d'exemple, de quelqu'un qui est peut-être pas dans le cadre d'une agression sexuelle, on s'entend, là, mais qui est j'ai un exemple en tête, là, qui est un parent qui n'est pas un parent, qui est la DPJ lui assigne un enfant et il a la garde complète d'un enfant, mais on s'entend, on ne parle pas d'agression sexuelle dans ce cas-là, mais il ne peut pas avoir de casier judiciaire parce qu'il perd à ce moment-là le droit d'avoir un enfant sous sa garde. Ça, c'est un autre exemple. C'est les plus connus, là.
Je peux
avoir toutes sortes d'exemples, mais oui.
OK. On comprend qu'il y a une date qui a été fixée pour la comparution. Il n'y a pas besoin d'être là, M. Salvay. Son avocat seulement, ça suffit, là.
Exactement. On comprend que si c'est pris par acte criminel, c'est-à-dire où est-ce qu'il y aura le choix de déterminer quel type de procès il veut, jury, pas de jury, etc., à ce moment-là, ça me surprendrait qu'il soit présent. Son avocat lui aura sûrement fait signer ce qu'on appelle une désignation d'avocat qui est déposée au dossier de cours, le permettant de représenter son client. Et si c'est par acte sommaire, donc ce qui est de moindre gravité, l'avocat peut toujours représenter son client.
Et la prochaine étape suivante, ça va être quoi?
Bon, on comprend que la comparution est le 15 février, donc l'avocat de la défense va recevoir la preuve au dossier, c'est-à-dire ce que le ministère public prétend avoir pour démontrer la culpabilité de l'accusé. Ça va donc permettre à l'accusé et son avocat d'étudier la preuve. On remet ça à une date ultérieure, là, qui est des fois à l'intérieur de soit 30 à 60 jours, afin d'étudier cette preuve-là, de voir s'il y a de la preuve supplémentaire à être demandée. Et la prochaine date, c'est habituellement soit pour déterminer la prochaine étape qui va être après, soit une enquête préliminaire. S'il y a de la preuve qui est manquante, on va demander un report de date afin de compléter la preuve et ça suit son cours là, de cette façon-là jusqu'au procès.
OK, ça veut dire que le 15 février, Éric Salvaille va savoir exactement qui l'accuse, qu'on lui reproche sur le plan criminel et la preuve qu'on a contre lui.
Oui, ben, il est fort probable qu'au moment de son arrestation, le 15 février, hier, que les policiers, durant l'interrogatoire, lui ont sûrement dit qui était la personne en question, avec les initiales DD.
OK, parfait. Merci beaucoup, Maître de Tomasis.
Merci à vous.
Au revoir, Maître Déborah de Tomasis, qui est avocate, donc en droit criminel. Alors, trois accusations, je le rappelle. Comparution prévue le 15 février prochain. Il est 7h40.